Bonjour à toutes et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour ce premier événement organisé par Soundscape. Alors Soundscape, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un projet tutoré organisé par par 6 étudiants du master Direction de projet et établissement culturel, donc de l'UBO, donc à Brest, là où on est. Alors à travers notre projet, on souhaite véhiculer des valeurs comme l'accessibilité, l'inclusion, le partage et l'accès à la culture. Donc c'est aussi pour ça qu'on organise deux ateliers pour les étudiants, gratuits pour les étudiants, les 11 et 12 janvier. Donc ça sera des ateliers de mapping et des ateliers de création assistés par ordinateur. Les inscriptions seront bientôt ouvertes. Et puis, on a bien sûr une super soirée qui s'organise à la Carène le vendredi 13 janvier. On a choisi une bonne date. On pense que ça sera. On n'est pas superstitieuse du tout. Et donc, on espère que vous serez là pour voir un super show live AV, un super show drag queen. Mais aujourd'hui, on est là pour une table ronde parce que pendant 1h30, on va questionner l'impact des technologies dans le spectacle vivant. Et mon iPad s'est tourné, comme quoi. Les technologies, on ne peut pas trop y faire confiance. Alors, n'hésitez pas aussi, je vois que tout le monde n'a pas de petits flyers, on a des petits flyers où vous avez de quoi prendre des notes, parce que donc on va discuter pendant 1h30 et ensuite vous aurez à peu près une demi-heure pour poser toutes les questions que vous voulez à nos intervenants et intervenantes. Alors pour cette table ronde, j'ai à mes côtés Marion. Un homonyme, puisque je m'appelle Marion aussi. Je vais vous laisser la parole à chacun après, je vous présente juste vraiment. Donc, on a Marion Montagioni, coordinatrice RSE chez Zébulon Régie. On a Samuel Arnoux, directeur de l'association Electronica. On a Josiane QF, chef de projet chez Planète CZ. Et on a Suis-je fou, artiste de musique électronique et artisan du synthétiseur, que vous avez déjà pu entendre d'ailleurs pendant toute cette préambule. Tout ce préambule. Donc, merci déjà à tous les quatre d'être là aujourd'hui. Et puis, je vais vous lancer tout simplement d'abord dans ce super exercice qui est d'une petite présentation brève pour vous présenter et dire un petit peu plus ce que vous faites. On peut commencer par toi, si tu veux, Marion.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Du coup, moi, je m'occupe de la coordination de la RSE. Qu'est-ce que la coordination de la RSE? C'est la responsabilité sociale des entreprises. Simplement, comment on fait en sorte que notre activité soit moins impactante d'un point de vue environnemental et un meilleur impact d'un point de vue social et qu'on trouve une pérennité économique pour mener à bien ces missions. Et une autre particularité, c'est que nous sommes une entreprise de direction technique et régie générale pour le spectacle vivant. Donc, nous sommes là pour dimensionner les moyens techniques, humains, logistiques, réglementaires pour la tenue des événements. J'aime bien l'expliquer de cette manière. Si on a le public et les artistes, c'est super. On n'a pas de scène, l'événement va être très différent. Donc voilà, on s'occupe du dimensionnement des flux, d'apporter tout ce qu'il y a besoin en technique, en fait. Voilà.
Tu as un micro aussi, Samuel. Ah, petit problème technique, mais on va régler ça.
Je pense celui-ci. Ça marche, celui-ci, ça marche. Bonjour à tous, moi je suis donc Samuel Arnoux, je dirige l'association Electronica qui est basée sur Rennes et qui est dédiée à ce qu'on appelle les arts numériques ou les arts hybrides et les cultures numériques. Il y a tout un tas de mots, on pourrait y revenir si ça vous intéresse. Elle a été fondée autour d'un festival annuel qui s'appelle Maintenant, qui a eu lieu là il y a quelques semaines. Et l'association organise également d'autres activités tout au long de l'année. On accompagne les artistes dans leur travail de création, on diffuse aussi leurs œuvres une fois qu'elles sont créées tout au long de l'année, on mène tout un tas d'actions culturelles sur notre territoire et puis on a une activité de structuration d'un écosystème régional, voilà, avec notamment une activité de formation. En gros, voilà ce qu'on fait toute l'année.
QF. J'ai commencé ma carrière dans le secteur culturel par une spécialisation comme vous. C'était la première en France, un DESS, ça s'appelait à cette époque-là, c'était le siècle dernier, de gestion culturelle à Paris Dauphine. Et pour vous dire que vous avez choisi un des secteurs les plus intéressants de mon point de vue, et pour autant très, très difficile. Une fois cette parenthèse faite, j'ai un parcours, moi, assez riche et varié, toujours dans le secteur culturel. J'ai été directrice de centre culturel en région parisienne, chargée de chef de projet sur les musiques actuelles. J'ai fondé une agence à Brest sur le développement culturel et avec donc les partenaires qui ont ensuite monté Astropolis, nous avons organisé des premiers projets autour des arts numériques. Ensuite, j'ai été à l'étranger, attachée culturelle au Pérou, en Colombie. Il se trouve que là-bas aussi, les projets en art numérique sont développés. J'ai aussi dirigé une scène nationale et travaillé pour le ministère de la Culture sur différentes missions. Je suis revenue à Brest et là, en fait, je développe une structure qui s'intitule Planète C7. Il se trouve que c'est un peu, je dirais, de façon tout à fait étonnante, la suite de ce qui s'est passé en l'an 2000 à Brest. Et compte tenu du confinement, la structure a pris une orientation un petit peu différente. Il était prévu, avant le confinement, qu'on propose au public un parcours d'œuvres numériques. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, on est surtout basé sur du conseil et sur voilà, de la pédagogie, de l'enseignement. Voilà.
Moi, je n'ai pas fait tout ça. du coup, moi, c'est Switch Fou. Je m'appelle Billy et je suis musicien et je fabrique des synthétiseurs aussi. J'en ai vendu un peu partout dans le monde et après, j'ai arrêté d'en vendre parce que ça me prenait trop de temps. Et voilà, et je développe des logiciels pour faire de la musique aussi que je diffuse gratuitement. Je suis très attaché à l'open source et au libre-échange et au fait que dans les outils numériques, on puisse créer une médiathèque universelle accessible à tous. Et à toutes, voilà.
Alors, merci à tous les quatre. Et donc, ensemble, on va réfléchir sur l'impact des technologies dans la création artistique, puis dans l'organisation, pour enfin évoquer ensemble les solutions qui peuvent exister ou qui peuvent être créées. Mais avant, on va peut-être d'abord faire un petit état des lieux. Alors, nous, ce qu'on appelle les technologies, ce sont toutes les technologies utilisées pour traiter les informations numériques et les transmettre. On a vu un changement rapide et constant de l'utilisation des modèles préconstruits. Et nous, à Soundscape, on a un peu envie de dire qu'on est dans une époque charnière entre l'utilisation de vidéomapping dans les concerts, les lumières LED, le système son. Tout s'invente et se réinvente un petit peu. Et puis, pour aborder tout l'ensemble de ces enjeux qui entourent les technologies dans le spectacle, il est important de poser les bases de l'utilisation de ces technologies. Et du coup, j'ai tout de suite envie de commencer par toi, Josiane. En tant que chef de projet, qu'est-ce que tu observes dans l'utilisation du numérique dans le spectacle? Est-ce que tu sens qu'on est dans une dynamique de toujours plus ou est-ce qu'on a une réflexion globale qui se fait dessus?
Il y a l'outil numérique, bien sûr, l'outil technologique, mais l'art numérique est bien plus que ça. Et pour faire un petit historique, il existe depuis les années 50, 1950. Et c'est progressivement que l'artiste s'est emparé de cet outil technologique pour d'abord créer avec ces outils un spectacle, donc si on est dans le secteur du spectacle vivant, et ensuite c'est devenu une sorte de création à part entière avec l'artiste. En fait, l'artiste s'est emparé des innovations qui bousculent la création et l'expérience de l'art. Et donc, il y a eu plusieurs évolutions. Et dans les années 90, on a assisté à ce qu'on appelle la révolution numérique, qui est une accélération du développement technologique. Et l'artiste a exploré cet outil-là, et c'est à partir de là qu'on a parlé des arts hybrides et culture numérique. parce que il est très important de faire une distinction entre l'outil technologique, l'outil numérique, et justement cette façon qu'il a d'intervenir en étant lui-même dans un processus qui perturbe la création de l'artiste. Donc c'est un outil, enfin on est dans des cultures hybrides. Donc deux têtes, on va dire, la tête humaine de l'artiste et la tête technologique. Je résume ça de façon presque caricaturale, mais je pense que c'est important de comprendre cet aspect-là pour, par rapport à votre métier, votre futur métier. Après, je peux continuer, mais peut-être que...
Non, je pense que ça peut être intéressant déjà d'avoir une parole de la part de Suichefou. Tu parles des artistes, on en a un sur cette table ronde. Toi, je ne vais pas te demander comment les artistes en général, mais comment toi, en tant qu'artiste, tu t'empares du numérique dans ta création.
Déjà, j'aime bien cette analogie-là de se dire qu'il y a deux têtes. Là, ces derniers temps, dans mon travail, c'est ce que je dis toujours aussi. C'est que je n'ai pas l'impression de travailler sur l'ordinateur, mais avec lui. Et que j'ai énormément de façons d'imaginer ma musique, mais que j'ai besoin de lui pour... je travaille énormément avec l'aléatoire et avec les côtés où l'ordi, je vais essayer de le rendre autonome, mais en bornant un peu ces possibilités-là. Du coup, je le vois aussi énormément comme un camarade de son, comme un groupe, quoi. Donc j'aime bien cette idée-là qu'on ait deux têtes, ouais.
Et toi, Samuel, alors pas en tant qu'artiste du coup, mais en tant qu'organisateur, membre d'une association et donc organisateur d'un festival aussi, comment toi tu t'empares du numérique dans ton travail ?
C'est en tout cas ce qui nous intéresse à Electronica, c'est comment ça a bouleversé le champ artistique, l'arrivée des technologies. Qui, comme ça a été dit, au début c'était un outil, et puis ensuite c'est devenu un concept, une façon de penser sa relation avec la création. C'est impensif de dire que les outils numériques ont amené beaucoup plus d'horizontalité dans la société, et donc dans l'art aussi. On a vu que les communautés artistiques, enfin, les artistes avaient accès à des communautés, et au-delà juste d'avoir des outils pour créer, ils ont aussi eu des outils comme nous tous pour échanger, partager, se documenter, se former. Et du coup, il y a beaucoup aussi d'artistes autodidactes qui ont pu émerger sans forcément passer par des carcans académiques très établis. Ça a un peu éclaté beaucoup d'horizons artistiques. Et c'est nous ce qu'on essaie en tout cas de creuser. Non pas qu'on soit complètement en dehors ou anti-académique, mais les deux nous intéressent de voir où ça s'invente, quoi.
Marion, j'ai bien envie de te faire réagir à une citation qu'on a trouvée de la Gaîté Lyrique, qui dit, donc je cite, « Le numérique semble clairement contribuer à la crise écologique. Peut-il en aller autrement ? Et si c'est le cas, les grands projets technologiques doivent-ils être remis en question ? Peut-on penser à un numérique durable ?» Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu fais le lien avec ton travail ?
Vaste sujet. Oui, effectivement, il y a plein de choses à en dire. Pour nous, le milieu technique, on peut voir que l'élément le plus marquant que tout le monde connaît, c'est l'arrivée des LED qui ont obligé en fait énormément de salles, de structures à enlever tout leur matériel de parc habituel, les parcs classiques, pour les transformer en LED. Aujourd'hui, on le voit sur la consommation d'énergie à matériel équivalent, la LED consomme moins. Par contre, on se retrouve avec un parc de matériel énorme qui est soit jeté, donc du coup c'est du déchet, mais est-ce que le déchet est valorisé ? Enfin, le déchet de toute façon n'est pas valorisé, est-ce que le déchet n'est que déchet ? Sinon, il est valorisé d'une manière ou d'une autre. Et puis, la fabrication de ces LED, en fait, il y a toute l'économie, il y a tout le cycle de vie de cette LED qu'on pose pas la question. Les technologies, le numérique apportent d'autres perceptions, font partie de notre quotidien aujourd'hui, et juste vivre en dehors de ça paraît impossible, en fait, très clairement. Par contre, on peut aussi se poser la question des limites et des choix politiques qu'on met derrière. Je parle très rapidement de politique parce qu'en fait... faire le choix d'un événement tout J'essaie d'être un peu précise, hein, je prends un peu le temps, mais tout numérique, sans même se poser la question et se dire, vas-y, on va en mettre un maximum, parce que ça passe comme ça, on va consommer normalement, on va faire que avec des nouvelles technologies, sans se poser la question, c'est un peu problématique, mais on peut se poser la question de l'utilité et de l'usage. Voilà, je m'égare, je sais pas si je réponds énormément à ta question.
Si, tu réponds et en plus tu fais parfaitement le lien avec ma seconde question, qui est comment et à quel moment est-ce que vous avez chacun et chacune eu cette prise de conscience de ce que les technologies pouvaient représenter?
Alors moi, je vais plutôt parler de l'impact. Ça va être au fur et à mesure des recherches. Je vous recommande à toutes et tous le Décarbonons la culture du Shift Project, qui a sorti pas mal de chiffres à ce propos. On a aussi tous les travaux de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique, où on se rend compte que le numérique aujourd'hui, c'est en France 2 à 3 % des gaz à effet de serre. Bien évidemment, il y a l'usage numérique, mais il y a aussi tous les matériaux qui sont liés. Et moi, vraiment, l'impact, enfin le moment où ça m'a vraiment sauté aux yeux et où je me posais énormément de questions, c'est le dernier rapport du GIEC avec cette date un peu butoir, en fait, de dire à l'époque, il nous restait 3 ans pour modifier les choses, et la découverte des low-tech. Je ne sais pas si tout le monde connaît les low-tech.
Je pense que tu peux peut-être préciser au cas où.
Alors, préciser. Les low-tech, c'est comment mettre une technologie au service de... Je ne suis pas assez précise là-dessus, je le sais très bien. Mais en fait, la low-tech, c'est comment nous aider, nous, en tant qu'humains, sans consommer forcément plus. Un exemple concret qui n'est pas forcément dans le numérique, la low-tech, c'est des frigos norvégiens. On va dire qu'est-ce que c'est. Un pot en terre avec du sable, avec un autre pot en terre. À l'intérieur, ça garde le frais. Du coup, on n'a pas besoin d'utiliser d'électricité pour ça. Mais on a le but qui est d'avoir du frais. On l'a. Donc, en fait, l'urgence d'agir, qui est aussi une urgence créatrice. Elle n'est pas que urgence panique. Faut se rappeler que dans ces dates butoirs, on peut se dire, OK, on a un gros challenge. Comment on réussit ce challenge, quoi? Et donc du coup des alternatives qui existent à créer aussi, mais pas forcément en consommant plus.
Samuel, je voyais que tu voulais réagir aussi à quel moment cette prise de conscience est apparue.
En tout cas, il y a eu un moment donné où c'est devenu aussi une mode dans le secteur artistique d'employer des technologies numériques. Et du coup, ça devenait des fois artificiel, en tout cas, ou un artifice. Effectivement, et certains projet l'employer juste histoire de l'employer pour être dans ce qui se fait, quoi, sans que forcément ce soit pensé à travers le prisme de la création, du sens et de pourquoi est-ce qu'on utilise ces technologies, ces techniques, etc. Et c'est là où forcément c'est la limite de ces outils-là, quand ils sont, mais comme n'importe quel outil, hein, quand ils sont pas mal pensés, ça devient mal employé, évidemment. Et puis, oui, sur ce que tu viens de dire à l'instant, sur quels sont les low-tech, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui réfléchissent à ça en ce moment, de plus en plus, et c'est hyper enthousiasmant d'ailleurs. Tu parlais de vidéomapping, je ne sais plus qui me parlait de vidéomapping tout à l'heure, pareil de vidéoprojecteurs, parce qu'on parlait de LED, mais les vidéoprojecteurs consomment énormément aussi d'énergie parce qu'ils demandent beaucoup de puissance, etc. Donc il y a des artistes qui réfléchissent à comment projeter de l'image sans utiliser autant d'énergie, etc. Donc c'est, voilà. En utilisant le soleil, par exemple, c'est des projets qui sont en cours en ce moment. C'est quelque chose de chouette qui s'invente.
Alors moi, je voudrais déjà dire que les nouvelles technologies ont apporté quand même une pluridisciplinarité au niveau artistique. Ici, visiblement, on parle que du spectacle vivant. Mais en fait, il y a tout un mélange et les nouvelles technologies interviennent dans toutes les disciplines artistiques qui, du coup, se mélangent et on n'est plus dans cette distinction entre spectacle vivant, art plastique, sculpture, photo, etc. Les choses ont beaucoup évolué avec l'outil. Et au-delà de cette pluridisciplinarité, on est aussi dans une transdisciplinarité, c'est-à-dire que les nouvelles technologies touchent tous les domaines. Donc, c'est une révolution fondamentale. Et le spectacle vivant, de mon point de vue, existera toujours, et heureusement. Voilà. Mais là, quand on parle des cultures numériques, c'est quelque chose qui intervient sur toutes les disciplines artistiques et dans quasi tous les domaines, en tant que transdisciplinaire. Et donc, par rapport à ça, les nouvelles technologies sont utilisées donc depuis les années 50, comme je disais, avec de plus en plus d'utilisation et de connexion entre le sensible de l'artiste, justement, et l'outil technologique. Et donc, tout se mélange, il n'y a plus de frontières, on est dans une connexion mondiale. Hein, et ça, c'est fondamental à prendre en compte pour parler des cultures numériques.
Tu la vois, toi, cette transdisciplinarité en tant qu'artiste ?
Ouais, bien sûr. Bah, moi, je pense qu'on n'est pas du tout de la même époque. Et du coup, moi, je suis né avec beaucoup de facilité parce que je suis né avec l'ordinateur, on va dire, enfin, avec l'ordinateur accessible dans les foyers. Et ben, évidemment qu'aujourd'hui, on a envie de faire de la vidéo, on peut le faire avec l'ordinateur, on veut faire de la musique, on peut le faire. Enfin, toutes les formes d'art possibles sont accessibles grâce à cette démocratisation des technologies, ouais.
Et est-ce que, du coup, pour toi, est-ce que cette abondance des technologies, tu le vois comme un avantage à la création ?
Ben, en fait, je suis né dans cette époque et je travaille avec les technologies, mais j'en suis extrêmement réticent aussi. C'est assez paradoxal. Par exemple, je déteste les smartphones et j'en ai jamais eu. Parce que, pour moi, c'est un aspect de la technologie qui est pervers parce que c'est là tout le temps et qu'en fait la plupart des choses qu'on va y faire c'est plutôt des choses inutiles pour les aspects de la création, nos intérêts personnels, c'est plus les réseaux sociaux, les notifications, les choses qui créent de la dépendance et notre ratio à la visibilité de publicité. Et du coup, je déteste ça, mais en même temps, je sais que dans toutes vos poches, il y a des logiciels qui existent pour créer du son, quoi. Et pour vraiment créer des morceaux complets et tout, ça existe, ce genre de logiciel sur smartphone. Du coup, c'est assez complexe, cette relation-là, quoi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre autour de cette table qui a une relation un peu complexe comme ça, avec la technologie ou, j'ai l'impression que vous, c'est plus, Marion, par exemple, c'est plus une question de maîtrise, peut-être, de l'outil technologique.
Oui. Oui, l'outil technologique, à partir du moment où il reste outil et moyen d'accéder à quelque chose, est hyper utile. À partir du moment où il devient dépendance et beaucoup plus complexe, je te rejoins sur les téléphones. Jusqu'à présent, j'avais pas forcément de téléphone très performant. Là, j'en ai racheté un et concrètement, en termes de praticité pour travailler, c'est génial, mais effectivement, tu as aussi cette dépendance, cette sur-sollicitation qui n'est pas du tout positif dans la création. Enfin, bon, après, là, c'est un avis personnel. Et moi, c'est la surabondance de technologie qui me dérange et la surabondance non réfléchie, en fait. Après, bon, là, on parle du spectacle vivant, mais un élément qui est vraiment hyper, hyper marquant, c'est toujours le secteur de la santé, où, en fait, la technologie et la haute technologie est indispensable, mais encore une fois, jusqu'à quelle limite, sans relancer le débat de la 5G, est-ce qu'on en a besoin d'avoir un chirurgien qui est à 6000 km, ou alors on forme des gens sur place et on crée de l'emploi et tout ça. Enfin, c'est toujours la question. Bah aussi la question du politique et la question de l'argent qui se pose derrière, finalement.
J'ai envie de poser un petit peu maintenant la question de la consommation énergétique. Est-ce que Samuel, en tant qu'organisateur, est-ce que c'est difficile de faire attention à cette consommation ?
Ça, c'est toujours la colle. En plus, pour nous, on a un festival nomade. On s'invite chez les autres pour organiser des événements. Du coup, on n'a pas, j'ai pas de données précises sur la consommation énergétique qu'on produit, enfin, au-delà de nos bureaux, mais on a une activité de bureau, donc c'est pas plus que n'importe quel bureau, mais sur notre activité artistique, j'entends, on va dans les salles de concert déjà équipées ou dans des lieux d'art qui sont déjà équipés pour ça. L'idée, c'est évidemment, il y a une logique économique parce qu'on a des petits moyens, mais il y a aussi une logique depuis l'origine qui est une logique un peu de développement durable, de se dire on va pas recréer des choses qui existent déjà. On est sur une métropole qui est bien équipée en structure culturelle à Rennes, et du coup, il y a tout un tas d'équipements qui existent avec lesquels on peut coopérer. Ça a été un peu la philosophie qui a été la nôtre. Donc on met en œuvre moins de moyens, on est du coup forcément un peu économe en énergie de ce simple fait là quoi, parce qu'on va dans les salles qui ont déjà des parcs lumière, déjà des parcs son, déjà un peu ce qu'il faut, et on choisit aussi les lieux en fonction de ce que demandent les projets pour avoir la meilleure adéquation. Alors, ça marche pas toujours à 100%, mais l'idée est quand même celle-ci quoi. Donc oui, on se pose la question un peu intrinsèquement, même dans le format du festival tel qu'il existe. Il y a cette donnée-là qui est présente, quoi.
Moi, je parlerai plutôt des demandes des créateurs et des besoins des créateurs, et en tant qu'organisateur, comment y répondre. Parce qu'il y a des territoires où c'est très, très difficile de trouver le matériel, d'avoir les connexions suffisamment importantes pour présenter des œuvres. Et ça, c'est une des responsabilités que l'on a en tant qu'organisateur pour programmer des œuvres qui nécessitent beaucoup de connexions, beaucoup de matériel. Et ça, c'est assez complexe parce que, de fait, il y a des territoires qui ne peuvent pas développer certains projets, qui ne peuvent pas accueillir certains créateurs, étant donné qu'ils sont en insuffisance au niveau des connexions et au niveau du matériel. Donc ça, c'est préoccupant, effectivement. Et faut aussi faire très attention, toujours en tant que créateur, que les budgets du matériel ne dépasse pas les budgets octroyés à l'artiste. Et c'est là qu'il y a un équilibre à trouver et qu'il faut savoir de quoi on parle et que fait-on, surtout dans le domaine du spectacle vivant.
Et est-ce que du coup, ça vous est déjà arrivé, toi Josiane ou toi Marion, d'avoir un regard contraignant sur l'utilisation de ces technologies? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de contraindre une création, une création artistique, à cause de la consommation ou d'une utilisation qui ne vous convenait pas?
Non, moi non, ça m'est pas arrivé parce que, comme je disais, moi j'ai travaillé beaucoup à l'étranger et en coproduction, donc c'était pas nécessairement la responsabilité. Bon, je travaillais en ambassade, de l'ambassade, de mettre à la disposition le matériel nécessaire, mais c'est la responsabilité, c'était de faire venir l'artiste, et c'est le partenaire donc qui travaillait pour mettre à la disposition de l'artiste tous les outils nécessaires pour sa création. Par contre, ce que je peux quand même préciser, c'est quand dans les parcours d'œuvres numériques, il y a des jours où il y a des œuvres qui ne sont pas visibles parce qu'il y a des problèmes technologiques. Et ça arrive quand même de temps en temps. Donc, voilà. Du coup, il n'y a pas d'œuvres. Voilà.
Et toi, Marion, sur un regard contraignant?
Moi, pas directement, parce que comme je vous l'ai dit au début, je suis coordinatrice de la RSE, donc je suis ni régisseuse, ni technicienne, ni directrice technique. Je ne suis pas sur le terrain directement. Et en plus de ça, mon entreprise, nous sommes une entreprise prestataire. Nous travaillons avec plusieurs clients, des organisateurs, organisatrices. Et donc, ça va être elles qui choisissent. Nous, on peut faire des préconisations, de dire ça va consommer tant, il va se passer tant. Mais on est, en tant que prestataire, au service du client aussi. Là, comme ça, je pense à un festival qui s'appelle le Woodstower, à Marseille, si je ne me trompe pas. Lyon, merci. Qui, pour le coup, les deux directrices techniques sont très, très en lien avec la production, sont très intégrées au projet. Donc, du coup, là, il y a une manœuvre qui est plus importante pour éventuellement avoir un droit de regard et un choix sur la programmation.
Alors Marion, tu m'as préparé le terrain précédemment parce que...
Mais quelle équipe de choc.
Incroyable. Parce qu'effectivement, je vais vous parler du rapport décarbonant la culture. En fait, il pose une question intéressante que j'ai également envie de vous poser à chacun et chacune. Est-ce que réduire la quantité et donc l'impact amènera forcément une diminution de la création? Et forcément, j'ai envie d'abord te laisser la parole, suis-je fou?
En fait, la question, c'est est-ce que tu me demandes si j'ai moins accès à l'électricité, je pourrais moins créer, en gros?
Ouais, est-ce que si tu réduis ton impact, tu vas forcément moins créer?
Il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé au fil des questions, parce qu'en fait, on fait le tour dans ce sens-là, et à chaque fois, le sujet, il change un petit peu. Mais il y a deux questions qui auraient pu être en rapport avec là où je vis 6 mois par an depuis 5 ans. Sur ce petit flyer, il y a une photo de moi et en fait, c'est ma maison. Et j'ai construit ma maison en terre dans les Pyrénées et j'ai compris mon impact avec l'énergie en étant là-bas parce que je voulais que ce soit un lieu de création. Donc j'ai acheté un panneau solaire de 110 watts, une batterie au gel, un convertisseur et une prise convertisseur de 120 volts. Et en fait, j'ai qu'une prise chez moi et elle est dédiée à la création exclusivement. Et donc, comme j'y vais surtout l'hiver, bah, c'est là où il y a le moins le soleil, en particulier en montagne, parce que les montagnes font de l'ombre. Et donc, depuis 5 ans, je crée déjà avec une portion d'électricité qui est vraiment minime. Je ne suis pas certain que beaucoup de gens en France puissent faire de la musique électronique avec si peu d'électricité, quoi, sans vouloir me... Enfin, voilà. Du coup, pour moi, ça ne changerait pas grand-chose. Par exemple, j'aime bien penser au... les annonces gouvernementales à propos du blackout de cet hiver qui pourrait arriver, je sais que je continuerai à faire ma musique sans que ça me pose aucun problème. Et j'ai aussi l'habitude, par exemple, d'aller chercher ma nourriture dans les poubelles, et je sais que quand les frigos des magasins pètent à cause d'une panne électrique, et ben les poubelles sont remplies. Donc en plus, je pourrais aller chercher tout un tas de choses. Voilà. C'est ça mon rapport avec ma portion d'énergie et mon impact. Et souvent aussi, par rapport à une question sur laquelle j'aurais pu rebondir, sur mon rapport à l'énergie sur un plateau ou sur scène, souvent les techniciens, ils sont très surpris quand j'arrive avec beaucoup de machines, mais que la plupart, c'est moi qui les ai fabriquées, et qu'ils me demandent combien de prises il me faut, et que je leur dis une. Et ça les surprend beaucoup à chaque fois. Et donc c'est un rapport que j'ai déjà depuis assez longtemps et que avec lequel j'aime bien avancer, quoi.
En fait, moi, ce que je voudrais dire par rapport à cet aspect-là, c'est que les artistes sont d'art numérique, on va dire, mais qui utilisent le numérique? Les artistes sont des chercheurs. Les artistes, ils explorent. Donc, les artistes, en fait, ils essayent de créer à partir du progrès, à partir de l'époque dans laquelle on est. Ils ne font pas ça ex nihilo, comme ça, comme s'ils étaient au fin fond de la brousse, sans savoir ce qui se passe dans le monde. Il se trouve que c'est l'outil technologique numérique a été créé notamment par rapport à cette tentative de travailler sur la consommation de masse. Et donc, ça a été créé par les militaires, par les industriels. Et en fait, que font les artistes à partir de ces outils qui n'étaient pas du tout, évidemment, destinés à l'artiste? Ils s'en emparent pour chercher, pour faire comprendre, pour essayer de mettre toutes ces évolutions-là à la portée de tous, pour qu'on ait conscience aussi de ce qui se passe. Ce ne sont pas que des créateurs de ou une musique ou une pièce de théâtre ou une photo. Ce sont des concepts, hein, qu'ils essayent de mettre en évidence par rapport à un acte artistique, pour que chacun puisse comprendre, puisse expérimenter et puisse déjà savoir dans quel monde on est. Et donc, par rapport au bilan carbone et tout, je pense qu'il existe des artistes qui travaillent là-dessus. Je ne peux pas vous les nommer, mais il serait très intéressant de voir un peu quelles installations ils sont capables de mettre en place pour qu'on puisse justement réaliser à quel point il y a une utilisation dans ce sens-là. Mais hélas, je ne peux pas vous donner de nom d'artiste précis, mais si vous allez fouiller, vous allez trouver.
Tu voulais réagir, si je peux.
Je pense que tu travailles avec des artistes que tu peux en nommer.
Joanie Le Mercier, par exemple, travaille beaucoup sur ces questions-là, de se dire comment est-ce qu'il essaye de décarboner sa pratique artistique. C'est un artiste visuel, Joanie Le Mercier. Il vient de, si vous voulez que j'en dise deux mots, hein, mais ça peut illustrer un peu ce qu'on se dit.
Vas-y.
Il vient du mapping. Il est d'origine bretonne. Il est parti vivre quelques années à Bristol. Au moment où ça a explosé pas mal. Et puis maintenant, il fait des installations numérique à base de lumière. Il travaille la lumière comme matériau artistique. Longtemps en le projetant sur un écran, et là aujourd'hui il essaye de se passer de l'écran pour projeter sur d'autres types de surfaces. Il a notamment fait des projets où il projette sur des murs de gouttelettes d'eau, et du coup avec des projections qui sont en 3D. Je vous recommande ses créations, c'est chouette. Et du coup là, c'est lui qui se pose toutes ces questions là depuis longtemps, de se dire quel est l'impact carbone de ses déplacements, parce qu'il est appelé à voyager partout dans le monde depuis assez longtemps, et il a pris conscience aussi que forcément ça avait un certain coût environnemental. Donc il pense maintenant ses créations pour qu'elles voyagent sans lui, ou même qu'elles soient recréées avec une fiche technique précise et des kits d'installation, et puis des visios à distance pour que sur les différents continents les œuvres puissent avoir lieu sans forcément qu'il y ait de voyage, parce que c'est quand même ce qui consomme le plus. On parle de matériel, mais le voyage, évidemment, c'est là où le bilan carbone est très important. Et je vous parlais d'artistes chercheurs là, qui, je suis assez d'accord avec cette définition-là, de se dire ils explorent plein de sujets, et évidemment ceux qui sont en prise avec notre société. Et Joanie là est actuellement en train de travailler à développer un nouveau prototype de projection à partir de la lumière du soleil, et il le développe avec un Fab Lab qui travaille sur les low tech, pour revenir à ce que tu disais, qui est basé à Concarneau, pas très loin d'ici, si vous le connaissez pas, qui s'appelle le Low Tech Lab, de mémoire. Et voilà, avec l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à projeter, enfin à continuer à travailler sur la lumière, mais sans utiliser des VP qui consomment une puissance électrique importante, quoi. Voilà, pour l'exemple.
Et toi, Marion, je pense que t'es en lien aussi forcément avec des artistes. Mais du coup, en termes de, en tant que prestataire, quelle marge de manœuvre tu te laisses sur l'utilisation du numérique, sur l'impact carbone, sur.
Faut que tu précises ta question.
C'est-à-dire.
Est-ce que moi, je peux te répondre? Quel usage on fait du numérique dans notre entreprise? Ça, je peux te répondre. Quelle marge de manœuvre on se laisse sur chaque projet? Elle est définie avec, par et pour, à différentes échelles, les personnes avec qui on travaille. Mais nous, par exemple, au sein de notre entreprise, on travaille énormément avec le numérique, pour ne pas citer le plus grand de tous les GAFAM, mais c'est notre plateforme aussi pour échanger beaucoup de dossiers et de fichiers, vu qu'on a beaucoup de clients différents. On a beaucoup de régisseurs et de régisseuses généraux qui travaillent avec nous, qui sont pas tout le temps au bureau, donc on a besoin de pouvoir échanger là-dessus. Et sur la question du bilan carbone, on a fait ce qu'on appelle un calcul carbone, parce qu'il faut savoir que le bilan carbone, c'est une marque déposée. Donc il faut passer une formation et avoir une licence d'exploitation pour soit le faire en interne, soit pouvoir le faire pour le compte de clients. Je suis au fait puisque je vais me former le mois prochain à Paris. Et donc du coup, on se pose ces questions justement du bilan carbone pour pouvoir avoir des chiffres, pour pouvoir se rendre compte de où est-ce qu'on consomme le plus, et donc du coup mettre en place des plans d'action pour réduire. Voilà, moi je peux vraiment te répondre sur comment on agit au sein de notre structure. Après, voilà, on travaille avec des personnes très variées, mais je pense que pour vous c'est aussi la même chose en fait, selon les artistes à qui vous travaillez, que vous accueillez, ou les salles, les réponses varient énormément en fait.
Et est-ce que quand on travaille, soit avec en lien avec des salles, ou vous en lien avec des artistes, est-ce que vous avez des une sorte de to-do list de check de ça il faut que je check avec Suifou par exemple, est-ce que tu check avec les salles, est-ce que tu regardes leur impact, est-ce que tu regardes leur bilan carbone, est-ce que vous sans aller dans vraiment dans l'investigation. Est-ce que vous avez des petites checklists où on se dit bon bah on va plutôt travailler avec cet artiste-là parce qu'il fait ça, ou on va plutôt aller vers cette salle-là parce qu'elle fait ça?
En tout cas, nous on s'est fait accompagner sur un bilan carbone sur le festival, et comme je le disais, l'endroit où on consomme le plus de carbone, c'est les transports des publics et des artistes. Donc c'est un levier sur lequel on essaie de travailler. Alors c'est plus facile avec les artistes qu'avec les publics, forcément. Mais en tout cas, du coup, oui, on discute beaucoup avec les artistes avec lesquels on travaille pour ça. Il y a plein de fois où ça... C'est très rare que on refuse complètement un artiste parce qu'il nous dit non, je veux absolument l'avion. Et du coup, on essaye de les limiter. Économiquement, ces derniers temps, on peut moins faire venir d'artistes du Japon ou du Chili. Donc, il y a aussi cette donnée-là. On est plus sur des artistes européens. Et eux-mêmes, ils sont hyper sensibilisés en général, et ils sont hyper OK pour venir en train. Je peux vous citer l'exemple de la dernière édition du festival. On avait une soirée de musique électronique dans la salle de musique actuelle à Rennes, à l'Antipode. Et sur tout le plateau artistique, alors c'est l'Antipode qui a travaillé le plateau, mais ils ont demandé à tous les artistes, et il y en a qui venaient de Berlin ou de Londres, s'ils étaient OK pour venir en train. Et tous ont dit ouais, bien sûr, pas de problème, et OK pour que ça demande une journée la veille et une autre le lendemain pour le déplacement. Ça fait partie un peu du jeu, quoi. Et bon, il se trouve qu'il y a eu une grève de train en Allemagne, donc ils ont tous venu en avion quand même. Malheureusement, c'est des fois la réalité du truc, quoi.
Et sur les fiches techniques, pour revenir un petit peu sur les technologies, est-ce que c'est tout comme où vous disiez, pour le train plutôt que l'avion, est-ce que il y a une discussion sur les fiches techniques aussi, sur l'impact du numérique?
Oui, parce que oui, c'est sûr que c'est de plus en plus quelque chose qui est regardé par tout le monde. Donc on sait bien que un projet, si tout le monde a envie qu'il soit montré et joué le plus possible, donc si on veut qu'il soit diffusé et que tout le monde se rend compte que c'est une aberration environnementale, personne va le programmer, c'est à peu près sûr. Donc évidemment, mais souvent les artistes les premiers, on est quand même dans un secteur qui est assez conscient de ces enjeux-là, et du coup c'est pas vraiment un sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se met en œuvre, en mouvement, etc. Mais il n'y a pas de résistance du tout, quoi. Au contraire, tout le monde est plutôt partant et volontaire, je trouve. Donc après, la question, c'est voilà, quelle solution on adapte, comment est-ce qu'on réussit à aller là où on veut aller tout en étant le moins gourmand possible, etc. Mais ça va dans le même sens. Ce sera plus facile à tourner parce qu'il y aura moins de matos à trimballer, ça pourra jouer en plus de lieux parce que ça ne demandera pas un équipement de dingo, etc., etc., quoi. Donc, mais par contre, effectivement, c'est hyper important de se poser ces questions-là dès la phase de création. C'est souvent le cas, mais ça paraît bête de le dire, mais c'est évident. Une fois que c'est créé, c'est trop tard pour se poser la question, quoi. Si ça demande deux semi-remorques pour faire un show, bon, bah, il faudra deux semi-remorques pour faire le show, quoi. C'est plus à ce moment-là qu'on pourra réduire. Enfin, je parle à la direction technique à mes côtés, enfin, la structure de prestation de direction technique, mais en général, quand c'est calé, quoi.
Oui, ben en fait, la question des usages de la création, elle se pose dès la création. Rien de plus à rajouter, mais c'est dès la création que ça se passe, en fait. Qu'est-ce que tu veux créer et comment tu peux le créer, et est-ce que tu peux le créer avec moins? Et peut-être qu'en fait, en créant avec moins, ça t'emmène aussi plus loin dans la création. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, la contrainte, je pense pas que tu vas me contredire, mais la contrainte est aussi moteur de création. Et nous emmène dans des endroits où, ouais, on pensait pas aller, quoi.
Josiane.
Alors moi, je voudrais dire que tous, que ce soit les artistes, les publics, les organisateurs, les enfants, on doit développer au mieux une responsabilité citoyenne. Et je reviendrai un petit peu sur les parcours d'artistes, où on travaille dans les parcours, on travaille avec différents publics, notamment des enfants, et on leur permet de toucher, de découvrir, de construire. Il y a tout un cheminement comme ça pour leur faire prendre conscience de ce que c'est que le numérique et que tous ces nouveaux outils. Mais fondamentalement, c'est pour aussi participer à leur citoyenneté, tout comme tout adulte. Voilà. Donc, par rapport au bilan carbone, que ce soit les artistes, les organisateurs, enfin tout le monde, on est tous concernés.
Suchou, donc t'as déjà expliqué un petit peu ton processus de création. Est-ce que t'es en contact avec d'autres artistes qui ont le même fonctionnement que toi? Est-ce que tu te sens un peu à part de ce côté-là? Comment ton processus de création, tu le partages avec d'autres ou pas, du coup?
Tous les artistes aujourd'hui se posent ces questions-là. On est quand même peu à voir mon fonctionnement, mais je suis pas non plus un cas isolé, je pense. Et par exemple, l'année dernière, j'ai fait une tournée avec Organic Orchestra. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet, mais c'était un projet de tournée à vélo en autonomie électrique. Donc en fait, derrière les vélos, il y avait des chariots qui avaient des panneaux solaires. Donc entre chaque concert, la journée, on pédalait. Et en même temps, on rechargeait les batteries pour pouvoir jouer le soir. Et il y avait de la projection vidéo. Il y avait de la diffusion de son et il y avait deux lives en plus. Donc c'était quand même et en plus toute notre consommation électrique était il y avait un technicien qui nous suivait, qui était chargé de s'occuper exclusivement de savoir si les batteries avaient été assez rechargées, de combien nous on dépensait et tout ça. Donc il pouvait nous sortir après chaque live combien on avait dépensé en électricité. Donc c'est des projets, j'ai entendu d'autres projets comme ça, je saurais pas ressortir les noms, mais il y a des gens qui commencent à réfléchir aussi dans ce sens-là. Après c'est de la consommation d'électricité aussi, les panneaux solaires c'est pas du zéro carbone non plus, faut pas oublier ça non plus, c'est une autre façon d'essayer de gérer ces questions-là, mais qui a aussi ses défauts quoi. Mais oui, globalement, je pense pas que je sois isolé, ouais.
Et donc, on a parlé de l'empreinte carbone déjà un petit peu. Et dans la création et dans la diffusion de cette création, selon vous, qui devient responsable de cette empreinte carbone? Est-ce que c'est l'artiste uniquement? Est-ce que c'est aussi le diffuseur? Quelle est la place de chacun dans l'empreinte carbone d'une création?
Bah, je pense que ça a déjà été dit, c'est de la responsabilité de chacun et de chacune, que ce soit les artistes dans la création, que ce soit les organisatrices dans leur programmation, que ce soit la technique dans l'utilisation, la consommation, le calcul de puissance et d'énergie, et que ce soit aussi le public dans sa réflexion de où est-ce que je mets mon... Pardon, je parle encore de voter de politique, mais où est-ce que je mets mon argent en fait? Pour qui? Enfin, le pouvoir d'achat, il ne faut jamais se rappeler que c'est le pouvoir d'acheter et donc le pouvoir de voter pour le monde qu'on souhaite. Et sans culpabiliser personne, on s'entend encore une fois. Hein, je peux paraître dur, mais c'est pas le propos. Mais en fait, oui, maintenant qu'on a de plus en plus accès à l'information et qu'on se rend compte qu'il y a des efforts qui sont faits à droite à gauche, bah, peut-être oui qu'on va renoncer un peu sur un confort, dans le sens on va pas prendre la voiture pour aller à tel festival parce qu'il y a une volonté que tout le monde vienne en vélo, mais en même temps peut-être que tu vas te faire plein de potes sur le chemin en allant en vélo là-bas, et puis tu vas créer aussi une autre chose et il va se passer autre chose quoi. Mais c'est peut-être aussi, du coup on n'a pas parlé de la responsabilité des pouvoirs publics de soutenir et d'accompagner ces créations-là dans leurs appels d'offres, mettre des critères autour de questions environnementales et sociales, et de vraiment les appliquer en fait après dans les choix des dossiers. Je pense qu'on est tous et toutes responsables et que surtout on est tous et toutes capables.
Et est-ce que ça peut être le rôle aussi d'un organisateur ou d'une organisatrice de mettre des critères sur les artistes qu'on programme ou pas? Ça, on en a déjà un petit peu parlé, mais je pense que j'ai envie d'aller encore un petit peu plus loin. Jusqu'où l'organisateur, l'organisatrice, il peut aller pour donner ses critères? Forcément, je te regarde un petit peu, Samuel, mais tu n'es pas le seul à qui je pose la question, bien sûr. Mais...
Nous, en tout cas, c'est une question qui fait débat, entre guillemets, en tout cas, qu'on se pose au sein de notre association. On est une association et sur jusqu'où on place le curseur éco-conscient, environnemental, etc. Et notamment, encore une fois, j'en reviens à l'action des transports, mais chez nous, c'est vraiment le pilier, là où on a le plus de leviers pour agir. Donc, on sait que si on agit fort là-dessus, le reste étant quasiment maintenant minime, comme je vous l'expliquais. C'est 90% de notre bilan carbone, en gros, c'est le transport. Donc, c'est là que ça va se jouer. Alors évidemment, on fait tout un tas d'efforts auprès de nos publics pour les inciter à covoiturer. On a un festival urbain dans une agglo bien desservie par les transports en commun, donc on indique évidemment tout ça, quoi. Sur les artistes, je vous en parlais, on les incite eux aussi, on discute beaucoup avec eux pour limiter leur transport, mais encore une fois, la question se pose pas trop parce qu'on a un peu moins de budget qu'on en a eu, mais se dire si il y a un projet artistique qu'on a hyper envie de faire venir d'un artiste coréen, mettons, parce que ça me paraît hyper hyper important de le montrer sur ce territoire-là. Est-ce qu'on s'en prive ? Est-ce qu'on prive alors, on va le travailler. Il y a plein de façons de le travailler, pas tout seul, essayer de s'entendre avec d'autres organisateurs ou organisatrices en France ou en Europe pour se dire quitte à le faire venir, autant que ça ne soit pas une seule fois. Mais certains dans mon association se disent peut-être qu'il ne faut pas, il faut arrêter. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Encore une fois, c'est un sujet de discussion, quoi. Apaisé et tranquille, hein, mais voilà. Je me dis que. Pareil, c'est un peu un point de vue politique, mais je me dis, ce serait trop dommage de se couper de la richesse culturelle de ces échanges-là. J'ai un ami scientifique et on partage le même point de vue de se dire, si on limite les colloques scientifiques au seul continent, on appauvrit quand même la recherche scientifique. Et c'est un peu la même chose, je trouve, dans le secteur de la création artistique. Et je me dis, arrêtons que nos jeans fassent 10 fois tour du monde avant d'arriver sur nos fesses. Et une fois qu'on sera là, on pourra se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour les artistes? Mais une fois qu'on sera là, déjà, on aura sûrement une planète plus soutenable. Enfin, je pense qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels on peut agir beaucoup plus fort et beaucoup plus radicalement avant de devoir être en arrivée à se couper des échanges culturels que permettent la mobilité des artistes et ou des savoirs et des cultures, pour le dire vite, quoi.
Si je peux me permettre une petite réponse rapide, directe. Effectivement, il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus impactants, mais en fait, chaque secteur doit agir là où il le peut. Et deuxième chose, en fait, je partage le point de vue que la culture doit continuer à se diffuser, les artistes doivent continuer à se diffuser, mais ça soulève plusieurs questions. Peut-être que au lieu de se dire un artiste va faire une date sèche, il vient du Japon, il vient pour notre festival et il s'en va, comment on arrête ce qu'on appelle les clauses d'exclusivité? Pour ceux qui connaissent ça, un artiste va venir ou une artiste va venir jouer à Brest, mais dans la clause, OK, tu peux pas jouer dans toute la région Bretagne pendant les 5 prochains mois, parce qu'on veut faire venir un maximum de personnes. Bon, ça, en termes d'environnement, on n'y est pas trop, hein, mais je vais me permettre de citer Aneta, qui avait dit au Paris Electronic Week, il y a un an de ça, j'ai jamais rencontré un public qui dit, waouh, j'ai vu un concert la semaine dernière, c'était incroyable, elle rejoue dans un mois, j'y vais pas. Donc déjà, comment on repense les tournées, en fait, finalement, et que du coup, cet artiste, oui, peut-être il vient du Japon, mais en fait, il est parti, alors peut-être il a pris une fois l'avion pour arriver à Brest, et puis en fait, il va faire le tour de France pendant un mois ou deux ou trois, et puis après, il repart. Bon, oui, il a consommé, mais il a consommé, mais en fait, on voit sur un temps long, quoi. Voilà. Et deuxième chose, encore une fois, c'est... Je te rejoins et je pense qu'on se rejoint tous sur l'importance de la culture, mais ce sont des choix qui sont de société et c'est encore une fois pour quelle société on vote, on milite et on lutte partout en fait. Et même au niveau de l'État, aujourd'hui, je pose la question, est-ce que on va préférer réduire drastiquement, tu as parlé de l'industrie du textile, mais il y en a d'autres pour permettre d'avoir plus de place à la culture, ce sont des questions qui se posent.
Alors moi, je pense que l'organisateur ne doit pas s'immiscer dans la création, de toute façon. Il a un budget. L'organisateur sait ce qu'il fait, sait ce qu'il propose à son public. Il est entre le créateur et le public. Après, l'histoire du bilan carbone, je reparle de cette responsabilité. Mais si on commence à restreindre les créateurs, parce que ça pollue, parce que ça coûte cher, parce qu'ils habitent trop loin, alors on appauvrit considérablement la culture. on est quand même à l'ère d'une connexion mondiale, interplanétaire. Donc, on n'est pas entre nous, en Bretagne, point. Voilà. Si on ne s'ouvre pas au Japon, en Corée, enfin au monde entier, on appauvrit considérablement notre culture, les publics, et on est en régression. Et je n'ai pas la solution, hein. Mais en termes de provocation, il y a aussi le monde virtuel et les avatars, et on peut apprendre aussi beaucoup comme ça, tout en respectant et en travaillant considérablement avec l'artiste, avec l'être humain qui exprime le sensible. C'est un peu une provocation, hein, par rapport au thème « Le spectacle vivant ».
Je te laisse
réagir. Oui, je peux réagir à ça, mais ça ira pas trop dans votre sens, je pense. En fait, disons que je comprends, et vous avez dédié votre vie visiblement à la culture, et je comprends cette idée de la défendre et de continuer à la faire aller de l'avant et tout ça. Mais pour moi, je trouve que c'est suicidaire de penser comme ça, que c'est restreindre la culture, de la faire réfléchir à ses problématiques. Peut-être, ouais, mais ça veut dire que si on n'y réfléchit pas, on la condamne dans les années à venir à ne plus exister du tout, en fait. C'est
alors, je voudrais juste répondre, mais la culture ne fonctionne pas comme ça, dans une bulle. La culture, c'est intègre le progrès pour le dénoncer, entre guillemets, pour le faire comprendre, pour informer. Donc, de toute façon, le progrès, il y va. Que l'artiste s'en empare ou pas, quelque part, c'est un plus. De plus en plus, les artistes travaillent maintenant en résidence avec des scientifiques, avec des entreprises, justement pour réussir à mettre en place une sorte de dialogue et avec le public aussi. Et en fait, ça, pour moi, c'est fondamental que l'artiste soit là, parce qu'au moins, lui dit. Je vais vous parler d'une petite expérience d'art numérique, c'est un concept. C'est un artiste allemand à Berlin qui travaille sur des logiciels, sur des algorithmes. Et un jour, quand il a vu une foule de personnes dans une rue très très commerçante, il a utilisé ses capacités, on va dire, je ne peux pas vous expliquer comment, pour détourner un peu l'attention des GPS et de tous ces moteurs de recherche qui font que tout le monde arrive dans la rue où il y a plein de magasins. Et en fait, tout d'un coup, cette rue s'est vidée et une rue où il n'y avait pas du tout de magasins, elle s'est remplie. Et c'est ça, les concepts que les artistes numériques sont capables de mettre en jeu pour qu'on puisse comprendre, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et en quelque part, l'artiste numérique, il peut aussi rendre sa responsabilité à l'être humain qui devient soumis, effectivement, aux ordinateurs, aux GPS, etc., etc. Et donc, c'est dans ce sens-là que je défends, coûte que coûte, l'artiste et la création, en sachant que, de toute façon, le progrès, il y va. On n'en a pas connaissance. Mais l'artiste nous donne un tout petit peu d'ouverture et de connaissance autour de ce qui se passe. Là, je ne sais pas si vous suivez un peu les scientifiques sur le bateau Tara. Ils ont des artistes à bord pour ramener comme ça, que ce soit des sons, des données et différentes choses, pour donner à tous la possibilité de découvrir. Et à partir de les enregistrements qu'ils font sur le bateau, ils font ensuite une création. Voilà, c'est en ce sens-là que je défends coûte que coûte l'artiste par rapport au progrès. Parce que c'est pas lui qui fait le progrès, mais lui, il l'utilise. Donc, il est aussi dans la recherche. Voilà.
Mais on partage le même avis là-dessus, hein. C'est certain. Et même, j'apprécie ce regard-là. Même, et aussi, par exemple, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, l'artiste, c'est celui qui se sert des nouvelles technologies qui ont été mises en place, pas du tout pour des raisons artistiques. Vous avez cité l'armée. En réalité, la plupart, la quasi-totalité des technologies que même moi j'utilise en tant que musicien ont été initialement conçues par l'armée, quoi. Et c'est quasiment tout le temps le cas. Et ça, je partage complètement ce point de vue-là. Je partage aussi, j'ose moins le dire parce que en quelque sorte, j'occupe cette place, donc c'est un peu présomptueux, mais ça me fait super plaisir d'entendre quelqu'un dire que en tant qu'artiste, on est ce pont-là. Mais je trouve pas non plus qu'on soit que ça nous permette de ne pas nous poser les questions des problématiques et de nous en éloigner. Ou bien, par exemple, il y a un truc que je cite souvent parce que, comme je vous disais, j'ai fabriqué des synthétiseurs, donc je me suis intéressé aux cartes numériques, aux circuits imprimés, même à la récupération de ces composants-là. Je suis allé à la déchetterie pour dessouder des potentiomètres, pour les récupérer, pour éviter d'aller en acheter, qu'on fait le tour du monde et tout ça. Et en fait, je me suis détourné du physique pour aller vers le logiciel et l'ordinateur parce que pour moi, c'était une façon de continuer à créer des instruments, continuer à les diffuser avec le matériel en moins et donc le prix aussi. Donc, je pouvais éviter de les vendre, même si ça me nourrissait un peu. Je pouvais les diffuser gratuitement et donc c'était accessible. Il n'y avait plus de limite sociale en plus parce que quand on vend un synthétiseur 850€ à quelqu'un, ben, c'est pas la même personne que quand on diffuse un logiciel gratuit sur Internet. Et voilà. Et donc, je me suis un peu perdu, je pense. mais du coup, bref, cette place-là de l'artiste, pour moi, elle est, c'est là où je voulais en venir, voilà, que, je me suis détourné vers l'ordinateur et je me suis rendu compte en faisant ça que la plupart des musiciens, prenaient du plaisir à remplir des studios de synthétiseurs, mais exactement avec le même plaisir consumérisme que quelqu'un qui va faire du shopping, sauf qu'il se cache derrière ces propos-là de la création. Et c'est ça que je trouve assez paradoxal et pervers. C'est que pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale, voire même il y a des gens qui sont artistes, mais qui créent extrêmement peu de choses, mais qui pourtant participent à ce phénomène-là et qui remplissent des studios de machines en plastique et en métaux rares et tout ça. Et je trouve que j'apprécie trop la façon dont vous parlez de nous, mais on ne doit pas du tout se mettre à part de ces questionnements-là. On doit épouser ces choses-là, en particulier quand on est né dans mon époque.
Pas rester dans son petit territoire et s'ouvrir, parce que la création, elle devient collective et elle peut être internationale. Voilà, voilà. Demain, tu peux travailler avec un artiste qui est à Tokyo. Voilà, et créer. Voilà, c'est formidable. On va pas refuser ça. Et en plus, ça ferait quoi sur le progrès? Rien du tout, à part ça limiterait la connaissance du citoyen du progrès. Donc, c'est quand même dommage.
Alors, merci beaucoup. Mais je ne vais pas rebondir là-dessus. Moi, je vais partir un petit peu sur une autre question. Marion, donc chez Zébulon Régie, vous avez le label et outil RSE PrestaDD. Samuel, à Electronica, vous faites partie du collectif des festivals, donc qui accompagne dans leur démarche les entreprises, donc dans leur démarche de développement durable. Vous faites également partie du réseau ACNOM, Réseau National des Arts Hybrides et Cultures Numériques. Josiane, à Planète C7, vous faites également partie de ce réseau. Et puis, donc, on a parlé du rapport décarbonant de la culture. Pardon, je me suis perdue. Selon vous, quelle place occupent toutes ces institutions, ces associations, ces rapports, ces études dans la réflexion et dans l'action à propos de l'impact, à propos de l'impact du numérique? Et je t'ai pas citée dans la liste, mais bien sûr que cette question s'adresse aussi à toi.
Vaste question. En tout cas, pour le collectif des festivals, pour commencer par eux, ils occupent une place hyper importante en Bretagne. Ça a été, c'est une terre de festivals et ce collectif-là a été un peu moteur dans cette prise de conscience. Je suis pas un historien, mais je crois quand même que ça a été un peu pionnier en termes d'initiative à l'échelle régionale de mettre en commun des festivals en se disant une idée qui maintenant paraît du bon sens, hein, mais de se dire on a des festivals qui sont des temps courts à des moments très 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 précis et sur lesquels on concentre beaucoup de besoins en gobelets, en tout un tas de matériel d'ailleurs, mais et ils se sont dit tiens mais si on mettait en commun nos besoins et pour nos gobelets ils servent plusieurs fois dans l'année pour les différents festivals. Je parle des gobelets mais il y a évidemment pas que ça et ça va bien au-delà de ça. Et puis après ça a été des échanges de bonnes pratiques, etc., auto-formation entre les différents organisateurs ou organisatrices de festivals. Et ça a été, je pense que l'impact a été hyper majeur. Du coup, ça fait longtemps que ce collectif existe. Je crois que ça fait une vingtaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Et ce chiffre à vérifier. Mais ouais, l'impact a été hyper majeur. Il y a plein d'initiatives maintenant très vertueuses qui sont hyper ancrées parce que ça fait longtemps qu'elles sont travaillées par ce collectif-là. voilà, pour eux en tout cas. Et ACNUM, ACNUM, c'est un réseau plus de filières, même si je ne sais pas si ils le diraient tous comme ça au sein du réseau, mais en tout cas, ça réunit des acteurs des arts numériques, aussi bien des artistes, des structures de production, de diffusion, de création, etc. Donc, il y a un peu les différents acteurs de cette filière-là pour échanger sur des problématiques et la problématique du moment. Alors, il y a aussi ces questions-là, évidemment, qui sont des questions importantes, discutées, débattues. Mais l'une des questions qui agite beaucoup ce réseau en ce moment, c'est de se dire, c'est la question de la reconnaissance politique, de se dire, on veut une meilleure reconnaissance dans les politiques publiques de la culture et avoir un peu, comme l'ont le théâtre, la danse, le cinéma, etc. Ils ont des dispositifs dédiés. C'est pas encore le cas dans les arts numériques ou pas tout à fait autant. Et l'idée, c'est voilà, d'être dans le dialogue avec notamment le ministère de la Culture pour essayer de mieux se faire reconnaître. Donc, voilà. Et par contre, le ministère, évidemment, on en parlait tout à l'heure, mais les pouvoirs publics aussi, alors ça pourrait aller bien plus loin, je suis d'accord, mais il y a quand même de plus en plus, moi je l'ai vu évoluer en 10-15 ans de métier, il y a de plus en plus, les incitations sont de plus en plus importantes, et maintenant elles sont pour la ville de Rennes, par exemple, ils mettent des en place des critères d'éco et dégâts conditionnalité sur leurs aides de subvention. C'est-à-dire que si on doit s'engager à respecter un certain nombre de critères, et là ils nous ont prévenu l'année dernière que si on ne les respectait pas, ce serait retoqué et on devrait rembourser au moins partiellement les sous qu'on a touchés. Donc on n'est plus seulement sur l'incitation, là on arrive aussi au bâton, et c'est pas dommage, hein, en vrai. Ça fait 10 ans que le secteur dit, sur certains sujets, le secteur dit oui, on va s'y mettre, et puis bon, on voit que 10 ans plus tard, pas forcément toujours au niveau qu'on pourrait attendre. Donc il y a certaines collectivités, voilà, qui commencent à se dire, bah, on va maintenant vous contraindre à vous y mettre, quoi. Voilà, je participerai dans plein de directions.
Alors moi aussi, effectivement, je connais le réseau ACNUM. Il y a aussi le réseau TRACE qui réfléchit aux mêmes questions, mais de façon plus scientifique. Et en fait, c'est ACNUM, c'est le réseau donc des arts hybrides et cultures numériques, et qui réfléchit aussi sur les industries créatives et l'innovation culturelle. Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Et c'est vrai que les arts numériques entraînent tout un changement dans le secteur de l'édition, je dirais, que ce soit de musique, hein, que ce soit de jeux, que ce soit du livre, de l'architecture, du design. Enfin, il y a une révolution fondamentale à ce niveau-là. Et donc, il y a toute une réflexion autour de ça qui accompagne un petit peu les préoccupations du ministère de la Culture, on l'a bien entendu. Et surtout des artistes et des organisateurs qui, en fait, le problème des arts numériques, c'est qu'on sait pas où le mettre. Et d'ailleurs, le thème de notre rencontre aujourd'hui le dit bien. Donc, ils savent pas si les artistes numériques, on les met dans le spectacle vivant ou on les met dans les arts plastiques. Ils savent pas. Donc, du coup, en cette absence-là, ben, ils sont pas toujours très bien servis. Voilà. Donc, les arts numériques, l'artiste numérique est multiple. Donc, comme toi, mais aussi comme le photographe qui travaille sa photo, comme la sculpture, comme la vidéo, le jeu. Et donc, c'est assez compliqué de le mettre dans une catégorie et pour avoir des subventions en fonction de sa catégorie. Donc, voilà. Et tout ça, c'est évidemment politique aussi par derrière. Bien sûr.
Est-ce que toi, en tant qu'artiste, est-ce que tous ces... Parce qu'on en parle, voilà, décarbonons la culture, les rapports du ministère, tout ça. Est-ce que toi, ça, toutes ces études un peu officielles et tout ça, ça a un impact sur ta création, sur ta vision des choses? Est-ce que tu t'y intéresses?
Je le vois pas du tout. En tant qu'artiste, on n'a pas du tout accès à ces choses-là. Moi, je suis chez moi, je produis ma musique, j'ai fait un album, je le propose à mon équipe, ils me disent, bah, vas-y, banco. Et après, on le propose aux salles et on sait pas ce qui se passe derrière. Nous, on n'a pas du tout cette conscience et ce regard-là. C'est pour ça aussi que c'est intéressant pour moi d'avoir cette discussion-là aujourd'hui. On n'a pas ce regard. Par contre, moi, je vois, Par exemple, je travaille avec un tourneur depuis un an et demi, et c'était pas le cas du tout avant. Et donc, comme vous l'avez compris, je suis un peu un vagabond, et j'ai expliqué comment je fonctionnais habituellement à ce tourneur. Donc je lui ai dit que ça pouvait arriver que j'aille sur des dates en stop. Et ça, c'était la crise, quoi. C'était pas possible du tout. Et en fait, je comprends que y a des institutions qui sont en place, et même pas des institutions, mais juste des normes de fonctionnement dans les structures, au sein de chaque structure, et qui sont pas ou très difficilement modifiables. Et c'est là où pour moi, je vois qu'il y a des choses qui on parlait par exemple de tout à l'heure de qui doit jouer quel rôle. Chacun a sa part à faire. Mais en fait, peut-être que ce serait bien de mettre en place des choses explicites qui correspondent à ça. Parce que quand le tourneur il est pas prêt de, par exemple, donc j'ai accepté de prendre un abonnement TGV Max, par exemple. Ça me permet de réserver des TGV. Je paye 80 euros par mois à la SNCF, et donc je réserve moi-même mes TGV. Et c'est très avantageux pour ma boîte de tour parce que plutôt que de payer deux billets qui coûteraient plus cher que 80 balles, ils payent 80 balles et je réserve mes billets. Mais ils sont complètement déboussolés parce que c'est un peu d'autonomie de ma part et que je dois moi-même réserver mes billets. Et ça les fait flipper parce qu'ils ont hyper peur que j'arrive pas à la date à l'heure. Mais pourtant, c'est des choses qui sont juste totalement logiques d'avoir cet abonnement-là. C'est plus simple pour tout le monde. Je vais en train aux dates. Puisqu'ils voulaient pas que je fasse du stop, ben je fais comme ça. Mais c'est des choses qui factuellement n'existent pas, quoi. Enfin, je veux dire, je l'ai mis en place, mais c'est jamais proposé par les boîtes de tours. Et il y a pas ces questions là, quoi. Il faut que ce soit il faut que ça rentre dans des dossiers, quoi, et que les gens ils puissent se référer à des choses qui ont été faites. On a commandé les billets, voilà, des règles. Et je pense que tout ça, c'est le seul truc auquel moi j'ai accès, par rapport à tout ce que vous, visiblement vous avez l'air de parler, et où j'aimerais peut-être que ça bouge un peu du côté des tourneurs, quoi.
Alors du coup, ce dont on a parlé, t'as tout accès en ligne. Le collectif des festivals, t'as plein de ressources en ligne. En tant qu'artiste, tu peux regarder Music Declares Emergency. Justement, c'est un collectif d'artistes et pas que, de tourneurs, d'orgas, de producteurs qui sont réunis pour se dire ok, on veut changer les choses. Ils font pas mal de recherches et ils mettent plein de trucs en ligne. Et vous pouvez aussi aller voir Arviva, qui s'est monté juste avant, juste après le confinement. C'est Art Vivant, Art Durable. Et pareil, ils font une grosse veille sur plein de structures qui s'engagent, plein de ressources et de choses comme ça. Donc là, c'est plus le point info. Il y a plein de trucs que tu peux trouver justement en ligne, quoi.
Tu nous as parlé du coup des solutions que toi, tu avais mis en place. Et tu nous as parlé justement du fait que tu étais partie chercher un synthétiseur là où normalement on n'est pas censé partir en chercher. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à une de mes questions parce que on entend très régulièrement quelqu'un qui nous dit « moi, j'ai acheté un téléphone reconditionné » ou « j'ai acheté un appareil photo ou un ordinateur d'occasion ». Est-ce que le marché de la seconde main, il peut s'appliquer à l'utilisation du numérique dans le spectacle vivant? Je te vois hocher de la tête, Samuel.
Nous, on le pratique avec les artistes qu'on accompagne en création pour une partie de leur matériel. Alors, il y a une partie, mais souvent un peu infime, ou en tout cas qui est loin d'être aussi courante que ce qu'on veut bien croire, qui demande de la technologie de pointe, de dernier cri. Et pour beaucoup, c'est un ordinateur dédié à une création. Et des fois, il a besoin d'être puissant, des fois pas forcément. En tout cas, nous, on se posait ces questions-là, par exemple, de se dire quelle puissance informatique on a besoin pour telle tournée, tel projet, telle œuvre plastique. Et souvent, on privilégie évidemment de la seconde main ou du reconditionné pour tout ce matos-là. Déjà, le matos numérique. Après, sur le matériel de spectacle, il y a de plus en plus d'initiatives de type ressourcerie de spectacle qui sont en train de voir le jour, et c'est bien heureux aussi, parce que de la même manière, il y a tant de projets qui ne nécessitent pas forcément d'acheter neuf, parce que ce n'est pas forcément d'avoir toujours la toute dernière technologie hyper de pointe. Il y a plein de projets qui marchent super bien avec le matos d'il y a 5 ans, et ça marche nickel, évidemment. Donc c'est tant mieux de voir que les choses bougent. Et voilà, c'est pas encore complètement partout sur tous les territoires, mais vraiment, ça, c'est en train d'apparaître et ça fait plaisir.
Et du coup, juste pour abonder dans ce que tu dis, il y a aussi la question du temps qui se joue. C'est-à-dire que si on a le temps de préparer les choses, on a le temps de d'aller chercher en déchetterie s'il faut des composants, on a le temps de passer par des ressourceries, on a le temps de se poser la question des usages, du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce matériel ou est-ce qu'on peut faire autrement? Quand c'est des demandes de dernière minute ou qui changent à la dernière minute, ok, panique à bord, vas-y, on va acheter neuf parce qu'en fait, le cerveau ne peut pas réfléchir et faire justement l'étude qui va derrière. Donc il y a le matériau, mais il y a aussi le temps qui joue beaucoup.
Josiane, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, du marché de la seconde main
Je trouve ça formidable, mais bon, c'est le temps et on est pris dans un tel rythme quand on travaille et qu'on organise un festival, par exemple, que on fait comme on peut. Voilà. Et si le micro il casse, il faut un autre micro. Alors on prendra celui qui est là. De toute façon, donc bien sûr que ça c'est le bon sens, mais après il y a la réalité. Donc voilà. Et je pense par contre par rapport aux outils technologiques, oui, on doit effectivement les réutiliser. Mais le problème, et tu l'expliquais très bien tout à l'heure par rapport à certains artistes, il faut toujours qu'ils aient le dernier modèle. Et donc, du coup, c'est une surenchère qui est... Je trouve ça formidable, ce genre de création. D'ailleurs, peut-être que vous n'êtes pas au courant, il a un article dans Libération cette semaine. Voilà. Donc, je trouve ça formidable, mais la réalité, elle n'est pas forcément là. Et par exemple, pour reparler du ministère de la Culture, qui se posait la question de comment distribuer des subventions aux artistes numériques, ils ont choisi Jean-Michel Jarre. Voilà. Bon, donc tout est dit à partir de ce moment-là. Donc c'est le bon sens de réutiliser, d'utiliser, mais bon, on n'est pas tout à fait dans cette réalité-là à tous les niveaux, quoi. Voilà.
Travailler avec Jean-Michel Jarre, c'est un peu du recyclage, non ? Pardon.
Les gars, c'est enregistré, t'auras pas de sub du coup.
Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Et effectivement, il y a l'artiste ou l'organisateur consommateur, mais il y a aussi la question des producteurs, où on va toujours chercher à créer la dernière console, la dernière enceinte, le dernier truc, et encore, et encore, et encore. Bon, est-ce qu'on en a vraiment autant que ça besoin ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire durer déjà ce qu'on a ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver juste des petits modules à patcher dessus pour faire évoluer, donc du coup on consomme moins. Voilà, juste encore une fois, il y a effectivement une responsabilité de la part du consommateur, mais il y a aussi la responsabilité de la part du producteur.
Sur cette question-là, comme vous avez tous répondu, je pense que mon utilisation de la seconde main, elle est beaucoup plus simple que la vôtre, parce que moi je recherche l'autonomie dans mon travail, et une fois que je l'ai trouvé via la seconde main, via les réseaux de déchetterie ou ce genre de trucs, j'arrive chez vous, avec vous, travailler avec vous, en autonomie, quoi. Et en fait, c'est plus, je dirais que ce côté-là de la seconde main, il est plus simple à traiter du côté des artistes et de ceux qui mettent en place une œuvre que du côté de ceux qui accueillent une proposition. Après, il y a le facteur temps, bien sûr, mais on peut par exemple proposer de faire un atelier avec une structure où, dans le cadre de l'atelier, on va rechercher des composants. Ça peut se faire, quoi. Mais c'est des choses où il faut du temps.
Mais toi, tu vas avoir une pratique, déjà une réflexion très avancée sur ces sujets-là. Et puis, c'est ton engagement aussi citoyen, j'imagine, enfin, évidemment. Il y a des artistes, sans les critiquer, qui sont juste moins avancés dans ces réflexions et qui ne les mettent pas forcément en pratique dans leur travail artistique. Et du coup, en tout cas, nous, on essaye d'avoir ce rôle-là à leur côté, de se dire, tiens, on pourrait imaginer que ce que tu projettes, on peut le faire comme ci ou comme ça, un peu différemment, pour éco-concevoir avec eux. Je mets plein de guillemets parce que j'ai pas les diplômes et tout ce qu'il faut pour ça, mais se poser ces questions collectivement, quoi, avoir cette vigilance collective. Et je reviens sur ce qu'on disait de chacun un peu vigilance partagée, quoi, de se dire chacun doit avoir ces vigilances-là, ces réflexes-là, et voilà. C'est hyper un gros poncif que je viens de sortir.
Et on en a un petit peu aussi parlé, mais moi, j'ai bien envie d'avoir votre avis à tous sur les alternatives écologiques dans le milieu. Est-ce que vous en avez déjà vu? Est-ce que vous en avez déjà utilisé? Est-ce que c'est un terme qui englobe un peu tout et au final, c'est pas vraiment utilisé? En termes d'alternatives écologiques, est-ce que ça vous parle?
A cappella.
Je vais commencer. Alors, moi, je pense que c'est pas possible parce que le terme, pour moi, le terme écologique, il veut dire qu'il va dans le sens de la nature. À partir de là, c'est juste pas possible du tout d'imaginer un monde du spectacle, de la musique électronique, qui va dans le sens de la nature. C'est pas possible. Il faudrait que dans mon spectacle, je plante des arbres, tu vois. Je sais pas. Et encore.
Ça peut être une idée.
Mais c'est un cliché en plus. Je crois que c'est rembourser son bilan carbone, c'est ça qui est fait. Et c'est une aberration. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'alternative écologique possible. Il y a juste des façons de faire en sorte qu'on puisse produire et créer sans impacter. Mais pas dans le sens de la nature. Juste sans impacter. Ou quasi pas.
On est censé, d'ici 2050, consommer tous 2 tonnes de CO2 par personne sur l'ensemble de la Terre. Aujourd'hui, un Français moyen, j'ai peut-être donné à la fourchette basse, consomme 9 tonnes de CO2 dans sa pratique. Voilà. Ça, c'est le petit fun fact. Il y a certains pays, ça consomme beaucoup plus. Il y a d'autres pays, beaucoup moins, bien évidemment. Je suis assez d'accord sur... de manière alternative, en fait, il faut drastiquement réduire, faire des choix aussi. C'est des choses qui sont possibles, qui sont envisageables, mais ça va demander en fait une transformation de nos pratiques pour tout le monde, une transformation des usages. Et j'en parlais avec un collègue il y a 2 jours, peut-être repenser notre notion de confort. Mais peut-être qu'en perdant du confort avec des salles un peu moins chauffées et on a... un peu plus de doudoune sur nous pour aller voir un spectacle, on gagne aussi, une attention autre, on continue à avoir des spectacles, donc on garde ce confort de découverte. Mais ça se réfléchit à plein d'échelles, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une solution. Mais voilà, je n'ai pas plus à dire.
Parmi, oui, il y en aurait sûrement, pour parler, on va faire un peu de la politique fiction, mais arrêter la course au gigantisme, pour les organisateurs, on parlait des festivals mastodontes tout à l'heure en off, qui réunissent des centaines de milliers de personnes, qui du coup génèrent, qui sont énergivores, comme c'est même pas franchement imaginable. À mon avis, de toute façon, c'est pas très optimiste comme pensée, mais je pense que ce sera plus possible pour tout un tas de raisons. Mais le fait de se dire que si on continue à avoir des canicules de dingo l'été, ça va être compliqué de se réunir à. Enfin, le Hellfest, il y a eu je sais plus combien de d'évanouissements cet été. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais voilà. À mon avis, c'est que le début de ce qu'on nous dit de tous les scientifiques. Donc bon, ça va être un sujet. Et il y aurait d'autres. Pareil, si on se dit, je suis d'accord avec toi, qu'il va falloir réduire drastiquement. Pareil, la question des transports, j'y reviens, mais c'est celle-ci qui est vraiment un peu au cœur de notre sujet aussi.
Et je me permets de rajouter, c'est aussi celle qui a été montrée par le travail du coup Décarbonons la culture, où c'est vraiment le transport qui consomme le plus, transport des publics, des œuvres et des artistes.
Voilà. Carrément.
Et, c'est et, pour tout le monde le et, problème.
Et du coup. Transporter son matos, peut-être que certains artistes et certains publics, quand on se dit qu'il faut absolument avoir une guitare électrique de tel modèle, patiner dans tel truc, honnêtement, est-ce que combien de personnes dans le public vont faire la différence sur cette guitare électrique-là spécifiquement et le modèle qu'on pourrait trouver si elle était mise en commun dans un parc, départemental ou un parc régional de matos qui va servir à tous les organisateurs. Alors, je sais qu'en disant ça, je mets pas beaucoup d'artistes dans ma poche parce qu'en général, ils aiment bien avoir leur guitare qu'ils ont trouvée, etc. Mais en vrai, ça pourrait être. Si on enlève, par exemple, dans le spectacle, si on enlève la question du matériel, on n'est plus obligé de se déplacer en camion. On peut se déplacer en train. Il n'y a plus d'arguments pour ne plus le faire potentiellement. Après, effectivement, c'est des rapports au temps un peu différents, mais ça s'organise. Et on peut du coup pas forcément perdre en richesse culturelle, mais diminuer beaucoup l'impact environnemental de tout ça, quoi. Mais par contre, ça veut dire effectivement penser le truc un peu différemment. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de le faire.
Merci beaucoup à vous quatre, Marion, Samuel, Josiane et Suichou. Et merci au public également d'être venu. Et donc, vous pourrez retrouver cette table ronde en podcast sur le site internet de Radio U, radio-u.org. Merci beaucoup.